Alors bon, merci à tous. Donc oui, on va aborder des sujets techniques. On va essayer d'être pas trop technique. On va faire au mieux. Donc un premier élément on va aussi présenter ensemble. On va pas faire l'un puis l'autre. On va un peu se passer le micro. Donc un premier élément dont on voulait un petit peu parler avec Laurent, c'est notamment vous donner un peu de visibilité sur quelques-uns des acteurs de l'accessibilité, surtout dans le domaine technique. Donc le W3C a déjà été un petit peu mentionné. Mais le W3C a une mission assez large en ce qui concerne l'accessibilité, notamment sur le web. Mais ce qui nous intéresse aussi dans notre cas, c'est la mission qui est jouée par le W3C sur l'accessibilité des contenus. Donc historiquement, le format EPUB, qui est le standard un peu universel pour les livres numériques, était porté par une autre organisation qui s'appelait l'IDPF. Et depuis quelques années, en fait, c'est le W3C qui a repris le travail de standardisation autour d'EPUB. Avec, on va dire, des évolutions qui sont assez mineures, mais il y a deux dimensions qui ont été particulièrement travaillées par le W3C. Il y a la dimension test, un peu s'assurer que les spécifications ne sont pas juste une fantaisie complète, mais que ça marche, que c'est utilisé. Et l'autre dimension qui est probablement la plus active au sein du W3C sur le travail sur EPUB, c'est l'accessibilité. Donc il y a plusieurs groupes, en fait, c'est assez éclaté, c'est difficile à suivre d'ailleurs. Mais il y a plusieurs groupes qui travaillent sur la question de l'accessibilité des contenus EPUB, donc les contenus en eux-mêmes, mais aussi sur la signalisation de ces contenus, qui est un des grands sujets qu'on va discuter. Un autre acteur qui est important, et dans lequel on est tous les deux très impliqués avec Laurent, c'est la Fondation Ridium. Donc ce n'est pas une organisation dont vous entendez parler très souvent, mais la Fondation Ridium est très importante parce que c'est elle qui est à la base, notamment, de beaucoup d'outils de lecture que vous utilisez. Donc, c'est une fondation open source qui regroupe plusieurs acteurs de l'industrie qui travaillent ensemble à des solutions open source pour la lecture, que ce soit sur la lecture mobile, que ce soit la lecture sur ordinateur ou prochainement la lecture sur le web. Donc on est tous les deux très impliqués là-dedans, on est tous les deux au bord de cette fondation. Laurent est d'ailleurs président en ce moment. Et j'agis un peu en architecte, c'est moi qui travaille un peu sur les spécifications techniques de cette fondation. Et par exemple, détail que vous ne savez peut-être pas, mais dans les deux applications de lecture qui ont été citées côté mobile, Aldico comme Baobab, en fait, les deux applications utilisent le travail de cette fondation, Ridium, pour ensuite proposer la lecture. Donc tout ce qui est fait dans Ridium va ensuite bénéficier aux différentes applications de lecture que vous pouvez utiliser, de temps en temps avec un peu de décalage. Mais il y a un effet comme ça qui est important. Ça vient d'abord dans Ridium, souvent, et ensuite, c'est des choses qui peuvent arriver dans les applications. Et pour Audier Lab, je vais peut-être pas te. Tu veux l'autre micro ou tu veux qu'on se passe?
Oui, donc côté EDR Lab, EDR Lab fait un peu le pont entre le W3C et la Fondation Ridium, puisque EDR Lab est membre du W3C et d'ailleurs également partenaire de la Fondation DESI, enfin, du consortium DESI qui s'occupe d'accessibilité. DESI qui lui-même travaille avec le W3C et EDR Lab est un des pivots, donc comme le disait Adrien, de la Fondation Ridium. Donc, plus largement, EDR Lab, c'est une association professionnelle dans le domaine du livre numérique, qui permet de lier ensemble aujourd'hui 65 acteurs de ce secteur, aussi bien des éditeurs, groupes d'édition, éditeurs indépendants, des distributeurs numériques, des fabricants de matériel, des fabricants de logiciels. Donc, toute la chaîne numérique et bien sûr des bibliothèques. Le réseau Carel est membre de EDR Lab. Donc, des bibliothèques nationales. La BNF est membre de EDR Lab. Donc, voilà. Et on a 65 membres, donc pas mal de Français, pas mal d'Européens, mais aussi des Canadiens, de marque et membres de EDR Lab, et des Américains. Donc, EDR Lab travaille au sein des groupes W3C sur les évolutions du format EPUB, sur les tests. Sur l'accessibilité et EDR Lab travaille avec la Fondation Ridium sur ce qu'on appelle les kits de développement Ridium, c'est-à-dire les logiciels cœur qui permettent de fabriquer des applications comme Aldico ou comme Baobab. Et on travaille aussi sur une application propre dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle Thorium Reader, qui est une application très différente de Aldico ou Baobab, qui sont des applications mobiles. Thorium Reader est une application pour PC, Mac. Donc que le PC soit Windows ou Linux, et Macintosh. Donc on complète un peu le paysage.
Voilà, et tout ça en fait est très lié les uns aux autres. Pour donner un autre tout petit exemple de comment il y a des interdépendances, par exemple LCP, dont j'espère certains d'entre vous au moins ont entendu parler maintenant, a été en fait incubé au sein de Ridium. Donc c'est au sein de Ridium que la spécification a été développée, mais EDR Lab joue un rôle de certification. Donc on a besoin des deux, quoi. Ridium a permis de créer un cadre technique, EDR Lab a permis de créer un cadre industriel. Et on a besoin de ces compléments-là. C'est une des raisons pour laquelle EDR Lab, d'ailleurs, a été créé à la base. C'est qu'on a besoin de ces différents acteurs qui apportent chacun, on va dire, une partie de l'équation. Et c'est une équation assez complexe à résoudre. Donc, on a besoin de plusieurs acteurs. Donc, on va principalement vous parler de trois grands axes dans la présentation. Il y a un premier axe qui nous occupe beaucoup en ce moment, qui est la question des métadonnées d'accessibilité, qui est un domaine qu'on peut dire encore très émergent. On voit que ça bouge beaucoup, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir présenter là-dessus. Il y a un deuxième axe qui est déjà un peu plus maîtrisé, qui est la question des fonctionnalités d'accessibilité, mais qui a un champ très large, parce que la question de l'accessibilité en elle-même est très large, et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont déjà été faites sur les fonctionnalités d'accessibilité, mais il reste beaucoup à faire, et on va s'intéresser, on va vous illustrer, on va dire, ça avec quelques exemples dans les différentes apps de fonctionnalités d'accessibilité. Et le dernier point, c'est celui qui a été le plus abordé jusqu'à présent dans la journée, rendre les interfaces accessibles. Donc on a parlé beaucoup d'un contexte web, le contexte applicatif est, on va dire, le cousin du contexte web, et on va mettre en avant certaines des particularités, on va dire, du contexte applicatif pour rendre les interfaces accessibles.
Voilà le menu. On commence. Alors,
je m'en occupais. Donc déjà, quand on parle des méthodes d'accessibilité, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plusieurs vocabulaires, chacun décrivant un certain nombre de choses, mais aucun d'entre eux n'est véritablement exhaustif. Et ces vocabulaires, en fait, ont chacun un rôle un petit peu différent dans la chaîne. Donc le premier vocabulaire qu'on trouve et qui permet de communiquer des méthodes d'accessibilité, c'est ONIX. Donc ONIX, c'est un standard qui est essentiellement utilisé dans le cadre de la distribution numérique. Donc, des distributeurs numériques, comme c'est le cas chez Demark, par exemple, on opère plusieurs plateformes de distribution, emploient ONIX pour envoyer des métadonnées à propos des livres, aux libraires, aux différents types de revendeurs, mais aussi aux bibliothèques. Donc, dans le cadre de PNB, par exemple, les distributeurs envoient des métadonnées sur les ouvrages en ONIX à Dilicom, qui les envoie aux libraires, et quand des bibliothèques commandent des livres numériques, c'est aussi dans ce format, en ONIX, que les bibliothèques vont recevoir les descriptions des ouvrages. Donc c'est un standard qui est très important dans la chaîne du livre numérique. Malheureusement, c'est un standard qui est très peu exhaustif sur sa capacité à représenter des métadonnées d'accessibilité. Donc il y a un décalage important par rapport à d'autres vocabulaires qui sont beaucoup plus expressifs, beaucoup plus précis. On peut exprimer, on va dire, certaines fonctionnalités avec ONIX. On peut dire « Ah, c'est conforme, WCAG », on peut dire « Il y a une table des matières », mais il y a des choses très importantes qui manquent, et c'est un gros problème quand on va vouloir travailler cette question de diffuser les méthodes d'accessibilité.
Juste rajouter un détail, ONIX, ça n'est pas un îlot auquel on n'a pas accès. ONIX, c'est un travail en cours, donc typiquement, EDR Lab va revenir vers les gens qui font ONIX pour rajouter des informations manquantes aujourd'hui.
Il y a un deuxième vocabulaire qui est un vocabulaire qui est d'ailleurs, qui a d'abord été conçu et utilisé sur le web, c'est schema.org. Donc, schema.org, à la base, c'est une initiative qui vise à enrichir les pages web avec des métadonnées. Donc, typiquement, par exemple, si vous êtes sur la page notice d'un livre, c'est une manière structurée de communiquer de l'information à propos de ce livre. Quelle est l'ISBN, quelle est la couverture, quel est le nom de l'auteur, toutes ces informations-là. Donc schema.org a principalement été développé dans ce contexte, mais progressivement schema.org, parce que c'est un vocabulaire qui est très large et très complet, commence à être utilisé aussi ailleurs, comme on va le voir un tout petit peu après. Donc schema.org, sur les trois vocabulaires qu'on met en avant dans cette slide, c'est celui qui est le plus complet à l'heure actuelle sur les métadonnées d'accessibilité. Par contre, l'expression même de ces métadonnées n'est pas évidente, et ça demande pas mal de travail pour réussir à les saisir et les présenter. Et le troisième vocabulaire, en fait, c'est quelque chose qui est spécifique à EPUB. Donc, il y a une spécification un peu en dehors de la spécification principale d'EPUB qui s'appelle EPUB Accessibility 1.0, 1.0, avec une prochaine publication d'une mise à jour 1.1. Et en fait, EPUB Accessibility, ce que ça fait, c'est que ça prend un peu des propriétés de plusieurs vocabulaires. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont issues de schema.org. Il y a aussi des choses qui sont issues de Dublin Core. Et il y a deux, trois propriétés qui ont été introduites par la spec EPUB en elle-même. Et en s'appuyant sur ces différents vocabulaires, EPUB Accessibility décrit une manière dans les fichiers EPUB d'indiquer l'accessibilité d'une publication. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental. C'est que vous voyez, en fait, chacun de ces vocabulaires a un champ d'application. Onyx a un champ d'application qui est principalement la distribution. Schema.org a un champ d'application qui est principalement des sites web. Et EPUB Accessibility 1.0 a un champ d'utilisation qui est principalement dans les fichiers. Et tout ça ne communique pas forcément très bien en soi. Donc, vous pouvez avoir des fichiers qui sont très bien conçus, très accessibles et qui utilisent bien EPUB Accessibility. Mais une fois que ça arrive dans les flux des distributeurs et donc que ça arrive dans les plateformes des bibliothèques, rien de tout cela n'est présent. Donc, à chaque endroit de la chaîne, on peut perdre de l'information et notamment les différences de représentation ou d'exhaustivité peuvent avoir un impact sur ça. Donc, c'est un des enjeux principaux, c'est comment faire que l'information ne se perde pas. Et comment faire pour représenter l'information de manière un petit peu cohérente selon ces contextes. Voilà, c'est ce que j'ai dit en fait.
Bien, derrière, donc on a un enjeu de représentation du contenu, des métadonnées d'accessibilité. Alors d'ailleurs, il faut donner quelques exemples. Qu'est-ce que c'est, ces métadonnées d'accessibilité? C'est la façon de dire, par exemple, qu'un livre, pour y accéder proprement, il faut être capable d'accéder à son texte, ou être capable d'accéder à de l'audio, ou être capable d'accéder à des choses visuelles. C'est être aussi dans les métadonnées capable de dire ce livre est compatible avec une norme internationale, donc le WCAG, ou pas. WCAG A, WCAG 2A, WCAG 3A. Quelles sont les autres métadonnées possibles?
Table des
Excusez.
matières, navigation structurée, les images ont des textes alternatifs, ce genre de choses. On peut avoir tout un ensemble de fonctionnalités qui sont utiles parce qu'elles vont aider la compréhension de l'ouvrage.
Donc, il n'est pas question dans ces métadonnées, un éditeur ne va pas dire mon livre est accessible ou pas accessible. Il va plutôt donner toute une série d'informations sur ce que le livre contient qui vont permettre à un lecteur derrière de décider, lui, si le livre est accessible ou non pour lui, ce qui est assez différent. Donc, à partir de là, on a des éditeurs qui mettent plein d'informations, enfin, qui sont censés, à terme, mettre plein d'informations assez discrètes, enfin, discrètes au sens différentes, dans leur contenu. Dans leur flux Onyx, et on a un utilisateur qui veut s'en servir. Et là, on a un petit problème de présentation parce que les métadonnées sont des choses relativement techniques. Ce que l'éditeur va mettre, c'est quelque chose de relativement difficile à comprendre pour un utilisateur lambda. Donc, il va falloir déjà décider quelles informations on va afficher, en particulier sur un portail de bibliothèque, donc sur un site qui permet de charger des ressources. Il va falloir aussi décider quelles informations on met dans une application de lecture, une fois que la ressource a été chargée et que l'utilisateur revient sur cette ressource dans son application de lecture, il faut qu'il ait accès à peu près aux mêmes informations, tout aussi lisibles pour lui. Donc on a un problème d'importance, un problème de compréhensibilité et puis un problème de termes à employer dans une langue donnée, puisque bien sûr, la plupart des concepts sont développés en langue anglaise par des groupes internationaux. Dès qu'on veut les localiser en français, on a des problèmes de traduction directe qui ne fonctionnent pas, tout bêtement. C'est des problématiques culturelles qui font qu'il faut re-réfléchir à la manière de labelliser les informations pour que les utilisateurs comprennent. Donc pour tout ça, au sein d'un plan stratégique pour le développement d'une offre de livres numérique accessible aux personnes en situation de handicap. Le titre est long, il n'y a pas eu d'acronyme pour ça, dommage. Ce plan a été fait en 2019. Il a été propulsé par le ministère de la Culture. Derrière, il y a un comité interministériel, un comité de pilotage qui a dedans plusieurs ministères et toute la chaîne du livre. Donc, tous ces professionnels et les pouvoirs publics se sont réunis ont conçu un plan pour améliorer tous les axes de la formation aux outils de lecture, donc formation des itinéraires jusqu'aux outils de lecture, améliorer tous les axes qui permettent une meilleure accessibilité du livre numérique. À l'intérieur de ce projet, il y a un petit sous-projet qui s'appelle le signalement des livres nativement accessibles, qui est juste ce dont je viens de parler, c'est-à-dire comment rendre des métadonnées techniques non lisibles sur des portails de bibliothèques, sur des portails de libraires, enfin sur des sites de libraires également, bien sûr, et dans des applications de lecture plus compréhensibles. Et donc, EDRLab a été chargé de s'occuper de cette étude. Donc, une étude qui est divisée en deux morceaux. Un modèle de métadonnées compréhensible par les utilisateurs et une traduction française de ces métadonnées avec des libellés qui soient très compréhensibles eux-mêmes. Donc, c'est une étude qu'on mène en partenariat avec toute la chaîne du livre, hein, tous les gens impliqués, les bibliothèques, le SLF, des distributeurs numériques comme Demarque, l'AVH, le ministère de la Culture. Donc, c'est une étude qui a lieu sous forme de webinaire, sous forme de sondages qui se passent dans le grand public ou de sondages qui passent dans le public spécialisé via l'AVH. Et donc, l'idée, c'est de sortir, des préconisations pour les développeurs de sites, de portails de bibliothèques, de sites de libraires et d'applications de lecture. Alors, on s'est basé sur un travail qui a été initié au sein du W3C, qui s'appelle le User Experience Guide for Displaying Accessibility Metadata. Donc, c'est vraiment... On a bien la notion de métadonnées d'accessibilité traduite en expérience utilisateur correcte. Donc, ce travail avait été fait surtout par des acteurs américains. Et quand on a pris ce travail comme base, qu'on l'a présenté aux acteurs français, on s'est aperçu qu'il y avait dissonance. Ça ne fonctionnait pas. Donc, déjà, on avait un problème de traduction, de culture, même de modélisation de tout ça qui ne fonctionnait pas. Donc, on s'est saisi de ce travail, on a fait des prototypes, on a travaillé avec tous. Donc, le travail est encore en cours, on espère pouvoir le finir à la fin d'année. Et ce travail va boucler vers le W3C pour que ce guide d'accessibilité initial, dans cette version 1, soit modifié, évolue, en fonction de nos propres conclusions, qui sont plus étayées que la réflexion théorique initiale. Et en fait, avec cette boucle vertueuse, on espère avoir un guide d'accessibilité W3C international utilisable aussi en France et ailleurs en Europe. Donc ça, c'est un travail en cours. On ne va pas le détailler aujourd'hui, mais sachez que les bibliothèques sont intégrées évidemment dans ce travail.
Donc, au sein de la Fondation Iridium, on s'est donné plusieurs objectifs, notamment parce qu'on souhaite aider les différentes applications de lecture à pouvoir présenter ces métadonnées. Le premier travail qui a été fait, ça a été de voir qu'est-ce qui existe dans tous ces différents vocabulaires. Il y en a trois, chacun, comme vous l'avez compris, il y a un manque d'exhaustivité. Donc on a visé pas forcément une exhaustivité complète, mais on a essayé de travailler sur un modèle unique qui permettrait de représenter tout ce qui est important, avec un objectif qui est peu importe que ces métadonnées viennent d'un fichier EPUB, peu importe qu'elles viennent du catalogue d'une bibliothèque, il faut qu'on puisse tout représenter. On ne peut pas se permettre d'avoir juste une partie des choses, quoi. Donc ça a déjà été fait. On a adopté ce modèle. Avec cette logique-là, en fait, on a déjà intégré dans les toolkits, dans les kits de développement, ces possibilités-là sur mobile, donc à la fois pour Android et pour iOS. Ce n'est pas encore disponible, dans le sens où pour l'instant c'est du code qui n'est pas dans les applications réelles et qui n'est pas encore qui sera dans la prochaine version officielle de Iridium. Mais le code est déjà là. Donc on a déjà de la capacité sur mobile, en prenant un fichier EPUB, d'extraire ces informations d'accessibilité. Et pour les bibliothèques dont le portail fournit aussi un catalogue OPDS, même chose. Donc avant de pouvoir emprunter un livre, si ce livre a des informations d'accessibilité, on va pouvoir voir ces informations d'accessibilité. C'est un peu différent. Le catalogue OPDS permet de le présenter avant le prêt, le fichier EPUB potentiellement après le prêt. Mais après le prêt, c'est un petit peu trop tard. Si j'emprunte un livre et qu'il n'est pas accessible, Bon, c'est intéressant d'avoir l'info, mais pas tant que ça. Donc ça, c'est fait sur mobile. C'est en planification maintenant côté ordinateur de bureau, enfin laptop desktop, quoi. Donc c'est ce qui sera intégré dans Thorium. Et on n'en parle pas beaucoup pour l'instant parce que c'est encore très émergent. Mais on travaille aussi sur un lecteur web, un projet qui s'appelle Iridium Web, qui va aussi permettre la lecture EPUB, PDF, livre audio, toutes ces choses-là, et qui prendra aussi en charge ces questions d'accessibilité. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de lecteurs web disponibles dans le dispositif PNB. Vous en avez essentiellement sur les extraits des livres et quand vous empruntez des livres audio. On espère que Dilicom et PNB va évoluer pour aussi permettre de supporter les lecteurs en ligne sur des emprunts, parce que ça peut avoir un certain intérêt niveau accessibilité. C'est un peu plus facile en fait de faire des interfaces accessibles aujourd'hui sur le web que sur des applications natives. Voilà, donc c'est un travail qui est plus émergent mais qui doit arriver plus l'année prochaine.
Je vais juste rajouter une chose sur les applications mobiles Iridium. Quand le kit de développement Iridium évolue, ça touche directement aujourd'hui 35 à 40 applications à travers le monde. Donc non seulement Aldico, Baobab, mais aussi d'autres applications dans d'autres pays, européens, américains, canadiens, enfin bon, ça touche un peu partout. Donc le travail qui est fait là, c'est un travail qui s'étend assez rapidement à travers le monde. Parce que c'est du code gratuit, hein, open source, conçu depuis plusieurs années maintenant, donc les développeurs le prennent facilement.
Pour donner un premier élément, enfin quelques premiers éléments de planning un peu prévisionnels, donc pour l'incorporation et la présentation de ces méthodes d'accessibilité, donc dans un de nos produits déjà, donc dans Feedbooks, qui est une librairie qui permet d'acheter des livres, notamment dans le cadre de PNB, on arrive quasiment au bout déjà de la présentation de ces métadonnées. Donc là, dans le mois courant du mois d'octobre, c'est quelque chose qui va être mis en ligne. Donc ça va comporter plusieurs choses. On pourra voir les fonctionnalités d'accessibilité d'un livre sur la page produit, un peu dans l'idée de ce qui a été présenté par Laurent tout à l'heure sur un prototype. Mais il y aura aussi des facettes qui permettront de filtrer sur ces livres-là. Donc filtrer des livres partiellement accessibles, pleinement accessibles, des livres qui sont compatibles avec de la synthèse vocale ou des lecteurs d'écran, des livres qui sont intégralement disponibles en audio, donc surtout des livres audio, mais pas que. Donc tout ça va être disponible là dans les prochaines semaines, vu qu'on est en train de terminer les développements là-dessus. Ce qui sera malheureusement un peu moins disponible, ce sont les métadonnées en elles-mêmes. Donc je ne vais pas m'avancer, mais il nous manque encore beaucoup d'informations de la part des éditeurs pour pouvoir afficher ça massivement. Donc, bien qu'on pourra afficher ces métadonnées, ce qu'on observe, c'est que pas assez de livres encore disposent de ces informations-là. Donc ça, c'est un... Mais bon. Être capable de les afficher, c'est aussi une première incitation pour pousser les éditeurs et les distributeurs à mieux les renseigner.
La plateforme Feedbooks par rapport à ce projet sur le signalement, c'est le cheval léger, c'est l'éclaireur en fait. Il passe un petit peu en avance avant qu'on sorte nos conclusions. Il sert à faire des boucles de tests en grandeur réelle. Et donc, du côté des bibliothèques, donc, il y a Feedbooks, du côté des libraires, il y a TiteLive, Ipagine, qui partent un peu devant et qui nous permettent de tester grandeur nature ce qu'on est en train de mettre au point pour tout le monde.
Alors, un deuxième élément qui devrait arriver assez rapidement, c'est que donc on a réalisé le développement au sein d'Iridium pour le support des méthodes d'accessibilité. Et dans la prochaine version d'Aldico, donc celle 1.8 sur iOS et 4.8 sur Android, qui seront disponibles en novembre, on va rajouter ce support-là. Donc on sera capable d'afficher les métadonnées, soit si elles sont dans les fichiers EPUB, soit pour les catalogues, pour les bibliothèques qui utilisent des catalogues OPDS, avant l'emprunt, pour signaler à l'usager à quelle fonctionnalité d'accessibilité devrait être disponible.
Alors du côté de Thorium, on compte le faire également courant novembre. Donc ça sera la version 2.2 qui intégrera elle aussi ces métadonnées d'accessibilité dans les notices des livres qui ont été téléchargés. Donc sous trois plateformes. On va reparler de Thorium après.
En début d'année, on va aussi intégrer du côté de Demark ces méthodes d'accessibilité dans notre portail, donc Quantum Station, Quantum Bibliothèque, pour les présenter aux usagers. Donc, avec cette intégration, ça veut dire que les usagers pourront voir sur l'interface web, avant de faire un emprunt, quelles sont les fonctionnalités d'accessibilité d'un un livre sur la métadonnée et l'accessibilité d'un livre. Et bah, ça va aussi boucler la boucle avec l'intégration dans Aldico, vu que ça nous permettra, avant de faire un prêt, de communiquer les informations dans Aldico. Donc ça, c'est un travail qui... En fait, on a déjà fait une grosse partie du travail là-dessus. Ce qui nous prend un peu plus de temps, c'est que vu qu'on opère ce portail notamment en Espagne, bientôt au Portugal, en plusieurs pays, il y a beaucoup de travail en fait sur justement la question du vocabulaire, comme le signalait Laurent tout à l'heure. Et on voit que pour réussir à arriver à quelque chose de compréhensible pour les usagers, c'est pas évident du tout. Voilà. Mais on pense arriver à quelque chose qui commence à être compréhensible de tous. C'est pour ça qu'on envisage ce déploiement en début d'année prochaine.
Et donc, la suite, c'est il faut maintenant que dès 2023, les autres portails de bibliothèque commencent à afficher ces métadonnées d'accessibilité. Et c'est là qu'on aura assez de poids pour que les éditeurs un peu ouvrent les barrières et mettent des métadonnées d'accessibilité dans leur flux Onyx. Puisque bien sûr, comme le disait Adrien, il y a une sorte d'effet d'œuf et de poule. Tant qu'il n'y a aucun moyen de montrer quelque chose, les éditeurs ne se sentent pas obligés d'intégrer les métadonnées d'accessibilité. À partir du moment où on pourra voir qu'il y a des manques, que les personnes en difficulté ne trouvent pas les livres qui les intéressent, là, ça sera une bonne incentive pour que des métadonnées qui sont souvent déjà prêtes, qui sont dans les entrepôts, soient passées dans les flux Onyx.
Oui, juste pour préciser ce que ça veut dire, en fait, intégrer les méthodes d'accessibilité dans un portail de bibliothèque, en fait, il y a trois dimensions. Il y a la dimension affichage, donc quand je avoir quelque chose sur la page qui présente ces méthodes d'accessibilité. Il y a la question mettre des métadonnées à même la page, c'est celles qui vont pouvoir être comprises, exploitées, notamment par différents bots qui vont sur les pages. Ça va permettre, par exemple, d'indiquer à Google que le livre est accessible, Google ou d'autres moteurs de recherche. Et finalement, il y a la partie intégration un peu plus fine avec les différents systèmes. Donc l'intégration fine avec des applications de lecture, l'intégration fine avec des liseuses. Voilà. C'est pas parce qu'on a fait l'un qu'on fait les deux autres. Donc en fait, il y a vraiment les trois dimensions qui doivent être prises en compte. Bah, ça va être un certain travail, je pense, quand même, avant qu'on puisse avoir les trois dimensions prises en compte partout.
Et donc, pour conclure sur le sujet métadonnées, vous parliez tout à l'heure, enfin, on parlait tout à l'heure de cahier des charges pour les portails de bibliothèques et les sites de chargement de ressources. Voilà encore un item, enfin, quelque chose à rajouter au cahier des charges, l'affichage des métadonnées d'accessibilité dans les notices des livres. Deuxième aspect. Aujourd'hui, les fonctionnalités d'accessibilité des outils de lecture. Donc là, on va focaliser sur les outils de lecture. On va commencer par parler de l'influence des DRM, donc des méthodes techniques de protection de livres numériques, qui sont bien sûr indispensables pour le prêt numérique, puisque si on ne met pas une DRM sur un livre, il n'est pas prêté, il est donné. Certaines DRM donc obligent à utiliser des applications fournies par un constructeur de DRM, donc des applications assez verticales, et ces applications ne sont pas toujours accessibles. Donc dans ce cas-là, on a un vrai problème d'accessibilité, bien sûr. La plupart des anciennes applications de lecture sur le marché ne sont pas accessibles, certaines n'évolueront pas. Celles qui utilisent la DRM Adobe en particulier n'évolueront plus trop pour des raisons d'obsolescence de ces technologies. Donc, tout ce qui utilise la DRM Adobe à ce niveau-là risque de se retrouver condamné assez rapidement puisque non accessible.
En fait, j'irais même un petit peu plus loin. C'est pas juste que la DRM Adobe doit être exploitée, enfin demande d'utiliser des applications non accessibles. C'est que certains aspects de cette DRM entravent l'accessibilité. C'est-à-dire que quand vous avez un fichier protégé par ACS, par exemple, la plupart du temps, il interdit la synthèse vocale. Donc, si vous voulez que votre application soit acceptée par Adobe, vous devez bloquer la synthèse vocale. Donc, il y a carrément des éléments conceptuels dans cette DRM qui sont incompatibles avec de la pleine accessibilité. C'est pour ça qu'on ne peut pas continuer avec Adobe dans une logique de rendre les contenus accessibles.
Du coup, quand EDRLab a été créé en 2016, fin 2015, début 2016, un des premiers projets qui nous a été demandé, c'est de développer industriellement la DRM Radium LCP qui avait été théorisée par la Fondation Radium. Donc, cette DRM a été conçue directement déjà pour ne pas permettre d'interdire la synthèse vocale sur les livres. Donc, on résout déjà le problème de ce côté-là. Un éditeur ne peut pas s'opposer à ça. Deuxièmement, cette DRM peut être intégrée à tous les outils de lecture qui le demandent, en fait. Donc, il n'y a pas de notion de propriétaire. C'est une vraie ouverture. À partir de là, il est peu onéreux pour un développeur, vraiment peu onéreux pour un développeur de logiciels de lecture, d'intégrer LCP et donc de devenir une application compatible avec toutes les bibliothèques, bien sûr, qui utilisent cette DRM. Alors, ces outils, ça couvre aussi bien les applications de lecture mobile, les applications de lecture sur ordinateur, que les liseuses. Aujourd'hui, on a deux liseuses utilisées en France qui utilisent LCP, les liseuses Vivlio, les liseuses Bookin, et j'espère, je fais un peu la chasse ces temps-ci, décrocher les liseuses Kobo bientôt. Bah, c'est difficile à dire quand, mais bon. Ouais.
Ça fait 2 ans qu'on les talonne et ils ne sont pas très réactifs. Ouais.
Alors, la chose bizarre, c'est que Kobo possède, en fait, opère tout ce qui est Tolino en Allemagne, qu'il y a un système équivalent à PNB en Allemagne qui s'appelle DIN-Online, et que DIN-Online utilise pas mal les liseuses Tolino. Donc, les liseuses Tolino sont des liseuses Kobo et intégrées LCP, puisque DIN-Online a appuyé pour que ça se fasse comme ça. Donc, ce n'est pas un problème du tout technique, hein, c'est juste un problème de marché à résoudre par la pression. Donc oui, bien sûr, LCP est déjà intégré à pas mal d'outils de lecture, et en particulier Aldico, Baobab et Thorium. Donc, plus les liseuses dont j'ai parlé tout à l'heure.
Donc, on va vous montrer un peu plus en détail ce que ça veut dire pour chacune des lignes de ce tableau. J'avais commencé un travail un petit peu non exhaustif, mais visant à résumer les fonctionnalités d'accessibilité pour les principales applications du marché. Donc, vous avez là une version qui a été mise à jour assez récemment, notamment suite d'un des échanges qu'on a pu avoir avec Laurent. Bon, pour Adobe Digital Edition, je pense que je m'abstiendrai de commentaires. Mais ça vous donne une petite idée du tableau actuel du côté de ces fonctionnalités d'accessibilité. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits en particulier sur les applications basées sur Iridium. Mais ce n'est pas parce qu'on fait le travail dans Iridium que c'est forcément répercuté dans toutes les applications. Donc on voit par exemple, si je prends l'espacement des lettres, l'espacement des mots, qui peuvent être utiles pour la compréhension pour certains usagers. C'est des choses qu'on a fait dans Iridium, mais par exemple, on n'a pas dans Baobab, parce que ça n'a pas été dans le cahier des charges de développement de l'application. Ça ruisselle, on va dire, quelque part. Quand on fait un travail du côté open source, ça peut ensuite être utilisé par tout le monde. Mais il faut que les développements quand même prennent en compte ces fonctionnalités d'accessibilité. Et je sais que ce soit dans le cadre de Thorium ou que ce soit dans le cadre d'Aldico, ça a été un travail déjà assez important pour mettre en place certaines de ces choses-là. Et on continue, on a toujours quelque part en vue des ajouts à faire. Donc là, vous avez une petite idée, par exemple, des ajouts qui sont prévus d'ici la fin de l'année dans les deux applications. Mais ce n'est jamais terminé, cette liste-là. On espère l'allonger et rajouter des choses au fur et à mesure. Mais c'est un travail permanent, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut toujours regarder dans différentes directions. Notamment, je pense à la dyslexie sur laquelle on pourrait rajouter pas mal de lignes et de fonctionnalités potentielles.
Ouais, on va en reparler un petit peu. Alors, quelques copies d'écran sur ce que permet une application qui cherche à être le plus accessible possible. Donc, la synthèse vocale. Donc là, on est dans Thorium avec une synthèse vocale qui permet de changer la vitesse, bien sûr, et changer la voix également. Et comme c'est une application Thorium qui est multilingue, il y a 16 langues possible sur l'interface. Également, on peut changer la voix et avoir des accents en 16 langues, ce qui peut être assez rigolo quelquefois. Donc, synthèse vocale avec suivi automatique des mots prononcés à l'intérieur d'un paragraphe qui est surligné. Autre exemple, très utile pour les personnes soit dyslexiques, soit qui apprennent une langue aussi. Il n'y a pas que les personnes qui ont un handicap sensoriel qui peuvent être, ou cognitif qui peuvent être intéressées. C'est une présentation, on casse un petit peu la présentation voulue par l'auteur. On passe sur du texte en rouleau, on grossit le rouleau et on a là aussi une synthèse vocale sur un texte simplifié, beaucoup plus facile à appréhender. D'autres exemples ici.
Oui, ça c'est l'équivalent en fait de la même fonctionnalité dans Aldico. Donc Aldico s'appuie sur Idiom Mobile. Là, vous voyez le résultat sur iOS. Donc c'est la même idée en fait. On essaie de décomposer le texte en éléments prononçables. C'est pas forcément nécessairement une phrase entière. On laisse à l'usager donc régler la couleur de surlignage, la vitesse, la voix. Selon les plateformes, par contre, on n'a pas toujours accès aux mêmes choses. Par exemple, iOS et Android ne proposent pas forcément les mêmes fonctionnalités au niveau du moteur de synthèse vocale, mais on essaie tant bien que mal d'incorporer ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est notamment Google a annoncé la semaine dernière qu'ils faisaient évoluer tout leur moteur de synthèse vocale pour s'appuyer sur certaines avancées qu'ils ont faites en utilisant notamment tout ce qui est machine learning pour améliorer la synthèse. Mais c'est des choses qui bougent très vite. Heureusement, on peut bénéficier aussi des améliorations qui sont faites par Apple et Google pour améliorer ces fonctionnalités.
Donc, autre copie d'écran où on a commencé à manipuler les espacements. Donc là aussi, utile pour certaines personnes qui ont des difficultés de lecture. Et là, bien sûr, tous ces espacements sont gérables et modifiables à volonté par l'utilisateur par un petit menu.
Même concept ici, vous voyez, donc là c'est toujours sur iOS. On a la possibilité donc de gérer certains espacements, notamment entre les lignes, entre les mots et entre les lettres. Ce qu'on va rajouter, c'est le fait de le faire aussi entre les paragraphes. Donc, la logique, c'est de mettre le plus d'outils possible entre les mains des usagers pour contrôler totalement l'affichage de l'expérience de lecture.
Affichage d'une police 10, il fallait quand même le montrer, c'est indispensable, bien sûr. Il y a plusieurs polices dyslexiques qui existent, on en a choisi une de base et ça peut se modifier et évoluer facilement.
Même concept un petit peu du côté des applications mobiles. En fait, quand on a commencé à travailler sur le projet Iridium, on a assez rapidement identifié un ensemble de polices qui peuvent aider à la lecture. C'est pas un domaine qui est évident parce que quand on lit des études, quand on voit des réactions, on voit que certaines d'entre elles peuvent aider une partie du public, d'autres n'ont aucun effet. Donc on allait vers une politique qui est d'en inclure plusieurs. Il y a des monospace, des duospace fonts, il y a des polices un peu spécialisées. Vous voyez là, on a par exemple Open Dyslexic, Accessible DFA ou Atkinson Hyperlegible qui ont été spécifiquement pensés pour ça. Mais on est plutôt dans une logique d'offrir plusieurs options. Parce qu'on sait qu'une seule option convient rarement à tout le monde et on préfère laisser le choix au maximum pour aider là-dessus. Et dernier point, on a eu aussi beaucoup de retours sur le fait que pouvoir régler l'ensemble des couleurs, donc notamment la couleur du fond, la couleur de la police, est un élément assez important. Donc on était assez surpris au début par certains choix des usagers, hein, ça ne nous paraissait pas forcément logique, mais suite à ces retours, on s'est assuré que sur Android comme sur iOS, il y a la possibilité de créer deux thèmes personnalisés pour les usagers, un thème jour, un thème nuit, avec un contrôle total sur quelle couleur de fond et quelle couleur de police. Et voilà, on a eu beaucoup de retours de gens qui étaient contents d'avoir cette option-là, qui va un peu plus loin que les habituels mode jour, mode nuit, mode sépia qu'on a en général dans les applications de lecture.
Et derrière, sur les autres fonctionnalités qu'on aimerait développer, enfin qu'on va développer, du côté des dyslexiques, il y a une fonctionnalité qui paraît très utile, c'est des règles de lecture. Donc, c'est des règles horizontales que l'utilisateur peut lui-même faire bouger facilement et qui lui permettent de fixer l'œil sur la ligne qu'il est en train de lire. Donc ça fait partie typiquement des fonctionnalités qui vont prendre leur place dans ce qu'on fait. Le deuxième, c'est le support de balises à l'intérieur des fichiers EPUB qui permettent de mettre en avant des structures linguistiques à l'intérieur du texte. Donc c'est quelque chose qui aide beaucoup les dyslexiques. Donc syllabe, verbe, nom, adjectif, groupe domino, c'est quelque chose qui doit être préparé. Bien sûr, la machine ne peut pas inférer ça du texte facilement. Il y aurait trop d'erreurs. Donc c'est quelque chose qui est fabriqué juste derrière l'éditeur. Donc c'est l'éditeur en général qui fait un accord avec une société, donc Mobidis en France assez souvent, qui va enrichir le livre, rajouter ces balises linguistiques. Et jusqu'à aujourd'hui, ces balises linguistiques ne sont lues que par des logiciels faits par Mobidis. Donc l'idée, c'est de standardiser ça pour l'ouvrir à tous les logiciels, Radium en particulier.
Juste deux petits mots là-dessus. Donc effectivement, il y a le cas de... le travail qui est fait par Mobidis est très intéressant pour tout ce qui touche à la dyslexie. Le domaine le plus compliqué et qu'on espère quand même, sur lequel on espère faire des choses, c'est rendre accessibles les contenus illustrés. Bandes dessinées, livres pour enfants. Et dans notre cas, par exemple, on opère une solution qui est utilisée par toutes les écoles au Québec. Donc, rendre les contenus illustrés accessibles, c'est très, très important. Et ce qu'on observe là-dessus, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir régler simplement avec des fonctionnalités d'accessibilité. Il va falloir qu'on ait des fonctionnalités d'accessibilité, mais qu'on ait aussi des enrichissements dans les ouvrages, des enrichissements qui vont aller par-delà de ce que fait EPUB. C'est le cas dans ce qui était présenté là par Laurent. Mais on est persuadé qu'il va falloir aller par-delà EPUB dans certains cas pour rendre certains contenus accessibles. La BD en particulier est un très bon exemple de cela.
Et enfin, bien sûr, des choses qui sont par exemple des définitions de termes. Et on nous a beaucoup parlé de définitions de termes sous forme imagée pour des personnes qui ont des handicaps cognitifs. Donc souvent, la définition, c'est bien sûr un lien vers un texte. Non, il faut que ce soit aussi potentiellement un lien vers une image qui arrive en pop-up. Donc voilà, trois exemples de choses qu'on va développer en fonction de nos budgets, bien sûr, puisque les budgets de DERLAB viennent de ses membres et de subventions publiques obtenues en particulier via le CNL, le ministère de Culture français. Troisième volet, rendre les interfaces de lecture accessibles elles-mêmes. Puisque là, on a parlé au début des métadonnées, on a parlé de la modification du contenu pour qu'il soit présenté de manière accessible. On va parler maintenant en particulier des lecteurs d'écran. Un des gros problèmes, une des grosses difficultés pour les applications, c'est d'être compatible avec des lecteurs d'écran. Donc ça va d'ailleurs être... C'est un problème qui concerne les applications et le contenu. Le contenu lui-même doit être préparé et optimisé pour les lecteurs d'écran. Et l'application doit permettre aux lecteurs d'écran d'opérer. Donc c'est un combo entre les deux qui doit bien fonctionner. Sachant que les lecteurs d'écran, donc ce sont des logiciels qui permettent d'accéder au contenu textuel d'un écran. Que ce soit le contenu d'un navigateur ou le contenu d'une application qui fonctionne sur l'ordinateur ou le smartphone. Donc, on en a deux sous Windows, NVDA qui est un logiciel gratuit et JAWS qui est un logiciel commercial. On en a sur macOS et iOS qui s'appelle VoiceOver et on en a un qui s'appelle, sur Android qui s'appelle TalkBack. La difficulté qu'on a en tant que développeur, c'est que ces quatre logiciels clés fonctionnent de manière relativement différente. N'ont pas tous les mêmes capacités, il n'y a pas de standard d'interface entre ces logiciels et les applications de lecture. Donc, il faut un peu s'adapter et jouer un petit peu avec les possibilités. Bon, il faut le faire, on le fait. Donc, c'est un travail complexe sur trois plans, bien sûr. Pour rendre une application optimisée pour un lecteur d'écran, on doit avoir une sémantique des objets de l'interface, c'est-à-dire ceci est un bouton, ça doit être correctement labellisé. Ceci est un formulaire, ça doit être bien labellisé aussi dans l'application. L'ergonomie de l'application doit être simplifiée, très bonne, très fluide. Alors ça, c'est utile pour tout le monde de toute façon, mais en particulier utile pour les gens qui ont besoin de lecteurs d'écran. Il doit y avoir des raccourcis clavier, enfin quand on a un clavier, bien sûr, donc tout ce qui est sur ordinateur. Des raccourcis clavier qui permettent d'aller très facilement aux différentes fonctionnalités de l'application. Parce que comme il a été dit tout à l'heure, circuler dans une application, même avec un clavier à coup de tabulation, et faire tout le tour de l'écran et de tout le tour des possibilités à coup de tabulation, c'est une horreur. Donc, il est indispensable d'avoir des contrôles en raccourci clavier. Les gens qui ont des problèmes de vue sont très, très bons en raccourci clavier. C'est des raccourcis clavier à trois touches, aucun problème. Très compliqué, aucun problème. Enfin, il faut une mémoire faramineuse, aucun problème. Mais par contre, il faut avoir préparé tout ça. Et que les raccourcis clavier proposés par l'application soient complémentaires des raccourcis clavier proposés par le lecteur d'écran lui-même. Donc, il y a plein de petites difficultés à résoudre qui sont assez complexes, mais qu'on s'efforce de résoudre. Et bien sûr, la gestion du focus, on en a parlé. Bien sûr, quand il faut toujours que la personne qui ne voit pas, par exemple, sache exactement où elle est. Donc, elle est sous la main, quelque chose qui lui indique l'endroit de l'écran où elle se trouve pour pouvoir faire la bonne action au bon moment. Ça aussi, c'est une complexité à laquelle il faut s'atteler. Donc, par exemple, sur notre application Thorium, on a fait en sorte qu'il soit optimisé pour les lecteurs d'écran. Avec des tonnes de raccourcis clavier qui sont documentés et qui sont même modifiables par l'utilisateur s'il se trouve face à soit des préférences, soit un blocage vis-à-vis de son lecteur d'écran. Donc c'est complexe, mais ça marche.
Alors, du côté des applications mobiles, on voit que c'est un domaine qui évolue vraiment très rapidement. C'est-à-dire, en l'espace de 2-3 ans, c'est quasiment tout a changé. Tout a changé plutôt pour le mieux, puisque tout va dans la bonne direction. Ce qu'on observe, par exemple, c'est du côté de Google, leur nouvelle préconisation maintenant en termes d'interface qu'ils appellent Material Design 3, maintenant fait des choses très intéressantes. Par exemple, il est capable de vous calculer automatiquement des couleurs qui vont vous assurer un bon niveau de contraste pour être WCAG 3A. Il y a aussi des recommandations qui sont intéressantes pour tout ce qui est gestion typographique, espacement, les éléments natifs proposés par la plateforme, les éléments de formulaire, les boutons, tous ces éléments-là deviennent nativement accessibles. Donc, un développeur mobile qui commencerait aujourd'hui sur cette base-là est considérablement aidé. Ça ne veut pas dire que tout le travail est fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même des efforts à faire, il y a quand même ces éléments doivent être pris en compte. Mais Google a beaucoup aidé en la matière et continue d'avancer dans cette direction-là. Même constat un petit peu du côté d'Apple, ce qui était très difficile avant, donc ce que disait Laurent par exemple, avoir du texte alternatif, des focus un peu bien gérés. Avec les évolutions qu'a fait Apple, notamment, je vais être un peu technique, avec SwiftUI, qui est la nouvelle manière de gérer des interfaces en fait sur iOS, macOS, tout ça est facilité. Donc, on voit que chaque année, que ce soit Google ou Apple, ils font de très gros progrès en la matière, mais les applications mobiles, pour la plupart, ont été construites depuis des années. N'ont pas forcément été conçus sur ces fondations-là. Donc tous ces bénéfices quelque part qui arrivent entre guillemets gratuitement avec les évolutions de ces plateformes, encore faut-il qu'ils soient répercutés dans les différentes applications. Et ça, c'est un travail assez considérable. Ça peut être quasiment refaire l'application de zéro, ou du moins refaire toute la partie interactive visuelle de l'application de zéro si on veut s'appuyer là-dessus, quoi. Donc, de notre côté, on a entamé ce travail depuis quelque temps. On a commencé en fait par demander des audits sur plusieurs marchés où on est présent. Donc, vu qu'on opère notamment au Canada, on s'est fait auditer par Nels, qui est vraiment spécialisé là-dedans, qui audite des applications, des plateformes pour faire des retours là-dessus. Même chose en Espagne, où on opère le dispositif Biblio, qui est quasiment utilisé par toutes les bibliothèques en Espagne. Et ça nous a permis déjà d'identifier on va dire, les principaux bloquants. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué de manière générale de rendre ces interfaces accessibles. Je dirais que c'est doublement compliqué quand on parle d'applications mobiles. Et ça a été assez utile pour nous pour voir un petit peu quels sont les éléments les plus gênants, qu'est-ce qui était le plus à portée de main. Donc là, on est sur une logique, on va dire, itérative. Mais en plus de cette logique itérative, on a lancé là depuis maintenant 4 mois, une logique qui est beaucoup plus massive, qui est qu'en fait, nous allons reprendre littéralement tous les écrans de notre application pour progressivement utiliser ces nouvelles manières de concevoir des interfaces proposées par Apple et par Google. Donc, Compose, c'est côté Google, et SwiftUI, c'est du côté d'Apple. Mais c'est un travail qui est énorme. Donc, on y va un peu écran par écran. Donc là, on a commencé à travailler toute la partie lecture. On sait qu'après, on va y aller progressivement, page d'accueil, bibliothèque personnelle, catalogue. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, les travaux à faire pour rendre une application mobile accessible sont très proches des travaux à faire pour rendre une application cross-plateforme. Donc, je vais expliquer un peu ce que j'entends par cross-plateforme. De plus en plus, les applications mobiles ne sont plus juste des applications mobiles. Une application iOS maintenant, Ça peut marcher aussi sur un ordinateur Mac. Un iPad, on peut aussi maintenant lui accrocher un clavier, utiliser un trackpad, utiliser une souris. Même chose côté Android. Il y a des Chromebooks, c'est possible de faire tourner les applications Android sur Windows 11. Donc la réalité, quand on a commencé à travailler cette nouvelle génération d'applications il y a 2-3 ans, n'est plus la réalité de 2022. La réalité de 2022, c'est que quand vous faites des applications mobiles, vous devez faire des applications universelles, des applications qui devraient même marcher sur des smartwatches, dans les voitures, quand les gens écoutent un livre audio en conduisant. Et ce qui est très intéressant, et qui est un vrai défi, c'est que beaucoup de ces choses-là, beaucoup de choses qui sont intéressantes pour le cross-platform, sont aussi intéressantes pour l'accessibilité. Donc, par exemple, Laurent avait parlé de raccourci clavier, de contrôle au clavier. On est exactement dans ce domaine-là. Donc, pour réussir à faire ça, en fait, on a commencé à globalement aussi intégrer des compétences en UI/UX, donc des gens qui designent ces interfaces-là. Et au fur et à mesure qu'on fait la refonte, bah, on passe par des phases de design où on vérifie tout ce qui est contraste, typo, quels sont les états, quelles sont les interactions possibles avec tous les éléments. Et progressivement, on va réintégrer ça. Donc, on se lance sur un travail qu'on estime de 18 à 24 mois. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée en fait de l'investissement qu'il faut mettre. Et c'est un investissement forcément qui va prendre du temps et je pense va arriver un petit peu au compte-goutte au fur et à mesure que les différents développeurs prennent ça en charge.
Et donc, bah nous deux, et pour les bibliothèques publiques, oui. Donc, vous avez plusieurs tâches, en fait. La première, c'est bien sûr de... Enfin, plusieurs possibilités, pardon. Au-delà de, d'offrir des portails qui permettent le téléchargement des ressources et leur intégration après dans une application de lecture, donc un truc en deux phases, je charge. Oui, je charge, puis je mets dans une application de lecture. Vous pouvez permettre maintenant l'accès à vos catalogues depuis l'application de lecture, la réservation, l'empreinte depuis l'application de lecture. Donc ça marche si votre portail de bibliothèque dispose d'une technologie nommée OPDS. Il est possible aussi de permettre l'accès aux livres empruntés depuis votre application de lecture, c'est-à-dire synchroniser ce qui a été emprunté avec une application de lecture. Pour ça, il suffit d'avoir les technologies OPDS ou API App qui est développée par Dilicom. Donc ça, c'est suivant le SIGB utilisé. Pour permettre l'extension et le retour anticipé, il suffit d'avoir la possibilité d'utiliser un outil de lecture bénéficiant de la technologie LCP. Et pour avoir une interface homme-machine accessible, donc avoir proposé à vos utilisateurs des applications accessibles, ben il vous faudra recommander des applications du type Aldico, qui fait des efforts, vous le voyez, Baobab, qui bénéficiera également de tout ce qui est fait dans Radium actuellement, ou Thorium Reader. Alors d'ailleurs, quand tout à l'heure on a parlé de l'étude qui a été faite, sur les outils accessibles, c'est vrai que je n'ai pas entendu parler de Thorium, je ne pense pas encore assez connu. Je pense qu'il faut vraiment partir du principe qu'aujourd'hui, beaucoup de lecteurs utilisent des liseuses, clairement. Alors l'accessibilité des liseuses, c'est un problème. Elle est pas... Certaines liseuses ont bien sûr la possibilité de faire du text-to-speech, enfin de la voix synthétique. Elles ont une sortie audio, d'autres non. Et l'interface accessible d'une liseuse, c'est pas vraiment quelque chose qui est développé aujourd'hui. Beaucoup de lecteurs, bien sûr, font appel à des smartphones ou à des tablettes. Donc pour ça, ils vont avoir besoin d'une application pour mobile, Aldico ou Baobab. Mais aussi, on a une frange. Alors j'ai du mal à savoir quel est le pourcentage de cette frange d'utilisateurs, en particulier les personnes aveugles, qui aiment utiliser un ordinateur parce que dessus il y a un clavier, parce que dessus ils utilisent leur outil de lecture d'écran, enfin leur lecteur d'écran, JAWS ou NVDA. Donc ils ont centralisé tout là-dedans, ils n'ont pas besoin d'un smartphone, pour ça en tout cas. Et donc eux aiment bien utiliser Thorium Reader qui est aussi utile pour les enfants dyslexiques, qui est aussi utile pour pas mal de secteurs, pas mal d'utilisations. Donc c'est vrai que si vous êtes capable de recommander tout ce panel, des liseuses, mais aussi des applications mobiles, mais aussi des applications sur ordinateur. Là, vous aurez le panorama complet des possibilités offertes à vos utilisateurs.
On va passer aux questions.
Bonjour, donc je suis Hélène Cudzia, je travaille ici à la médiathèque Marguerite Duras sur le pôle Lire Autrement. Et merci pour la présentation de toutes ces techniques et d'expliquer qu'elles évoluent très vite. Mais comment est-ce que vous, vous estimez le délai jusqu'à ce que les usagers prennent ça en main? Parce qu'on sait que tous les usagers de revue d'écran, par exemple, n'ont pas le même niveau d'habileté. Et combien de temps vous estimez entre l'arrivée d'une nouveauté technique et voilà, la prise en main par les usagers?
Alors, on va dire que ça dépend de la technicité de l'usager, forcément. On voit très bien que les personnes qui, comme Fernando Pinto, par exemple, qui ont l'habitude d'utiliser des outils techniques, s'emparent de ces technologies immédiatement. Maintenant, en effet, les personnes qui sont plus en difficulté vis-à-vis des technologies, il en faudrait quasiment des formations pour pouvoir utiliser ces technologies de lecture facilement, bien sûr.
En fait, ce n'est pas évident parce qu'on est dans un champ qui est très large. C'est-à-dire, il y a des fonctionnalités qui peuvent servir à quasiment tous les usagers. Et on le voit, par exemple, quand on a intégré la synthèse vocale ou certains éléments de personnalisation d'affichage, on avait vraiment pensé ça d'abord avec des usages d'accessibilité. On voit que ça bénéficie en réalité à tous les usagers. Donc, il y a des choses qu'on fait qui, en fait, sont adoptées très naturellement. Et à l'inverse, il y a des éléments qui sont particulièrement complexes et qui peuvent demander, quelque part, à tous les acteurs de la chaîne de bien faire les choses. Et ça peut être très long. Par exemple, préserver les méthodes d'accessibilité, les documenter, les mettre partout. On se lance dans un dossier, malheureusement, je pense qu'il va être un peu long. On va arriver à un moment avec un contexte légal qui va faire un petit peu plus coup de bâton et on l'espère pousser les gens à aller plus vite. Mais c'est pour ça que ce n'est pas évident de répondre. Parce qu'il y a des choses, c'est quasiment immédiat et d'autres aspects, ça va probablement prendre des années avant qu'on arrive à véritablement les avoir partout. Je pense que là, plus on a d'acteurs de technologies différentes à prendre en compte, plus forcément le risque que quelque part ça se perde ou que ça soit mal expliqué ou mal présenté est important. Et c'est vrai que le dispositif PNB, par exemple, c'est un dispositif qui est assez compliqué avec beaucoup, beaucoup d'acteurs différents. Donc le risque que quelque chose aille mal à un endroit dans la chaîne, il est élevé. Plus que sur d'autres dispositifs dans d'autres pays où c'est un peu plus contrôlé, on va dire, à tout le niveau de la chaîne.
Moi, j'ai deux questions. Mélanie Le Torec de la BM de Lyon. Du coup, dans un cahier des charges pour acquérir du livre numérique, si on veut renforcer le volet accessibilité, au-delà de la question des métadonnées, quels sont les critères qu'il faut mettre en exergue ?
Sur un appel d'offres pour l'acquisition des contenus ou sur un portail ?
Les deux.
Sur les contenus, ça serait que le libraire présente les métadonnées d'accessibilité au niveau de la fiche produit. Permettent aussi de donner des options de navigation et donc des options facilitant l'achat pour ces critères-là. Donc une bibliothèque pour avoir une politique, par exemple, d'acheter, je ne sais pas, que des romans qui permettent au moins la synthèse vocale. Donc effectivement, si vous n'avez pas ces informations qui vous sont communiquées dans l'interface libraire, vous n'allez pas les deviner, quoi. Ou peut-être en allant les chercher ailleurs, mais bon courage, quoi. Dans le cadre d'un portail, c'est beaucoup, beaucoup plus large. Il y a effectivement rendre le portail en lui-même accessible, qui est important. Il y a la présentation des méthodes d'accessibilité, qui est important aussi. Il y a potentiellement les intégrations de ce portail avec différentes solutions, notamment des applications de lecture. Les applications de lecture pourraient être un pas de côté. On pourrait avoir des situations où le portail web en lui-même n'est pas accessible, mais parce que le portail supporte OpenDS ou API App, et que les applications sont accessibles, on va avoir certains avantages là-dessus aussi. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et s'assurer aussi peut-être que le portail permet tout ce qui est, enfin, met à disposition toutes les options de lecture. Donc, comme l'a signalé Laurent, je pense que c'est très sous-estimé en fait le pourcentage de gens qui lisent, que ce soit sur ordinateur ou sur des applications mobiles. Nous, on le voit sur ordinateur, sur certains marchés, ça monte jusqu'à 30% des usages. Les gens, personne ne devine ce chiffre en général. Et les applications mobiles, je pense que le plus élevé qu'on a maintenant, c'est en Espagne. On est à 65% des gens qui font tout sur leur téléphone ou leur tablette. Donc, s'assurer qu'on ne fait pas juste quelque chose pour une partie des usages et des usagers, c'est important. Voilà, je pense aussi à la lecture web, qui pour l'instant n'est pas assez développée dans le cadre de PNB. Et on voit sur d'autres marchés, aide aussi pas mal des usagers. Comme ça leur évite d'installer des logiciels. Voilà, il y a de la synthèse vocale, il y a des lecteurs d'écran intégrés maintenant en général, au moins sur les différents systèmes d'exploitation et dans les navigateurs web. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas utiliser ce mode d'accès aussi.
Et ma deuxième question était sur la formation. Donc c'est vrai que pour savoir utiliser finalement toutes ces fonctionnalités, on est en demande de formation. Qui sont finalement aujourd'hui les acteurs en fait possibles de ces formations, sachant qu'in fine, l'idée, ça serait que des animateurs numériques, des bibliothécaires soient capables aussi de se faire les relais de ces fonctionnalités. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes capable de proposer des formations ou à qui il faut s'adresser?
Là, vous me posez une colle. Alors, en effet, les bibliothécaires, à terme, pourraient devenir des bons relais. C'est-à-dire que autant manipuler sur un smartphone, VoiceOver, par exemple, pour faire des choses complexes, ça demande un certain apprentissage, pas évident. Autant sur un ordinateur, aller de tabulation en tabulation, donc d'une manière très très simple, très réduite, pour au moins obtenir, pour montrer comment on obtient les premiers résultats, ça c'est facile. Donc il y a différents degrés suivant l'outil qu'on utilise. Et je pense que sur la manipulation d'un ordinateur, les bibliothécaires pourraient le faire sans aucun problème. Bon, maintenant, des formateurs professionnels, non, Odair Lab n'est pas là pour ça. On est un labo de développement, on ne peut pas faire de formation. Et les fournisseurs de portail non plus. Donc là, oui, à voir.
Bah, c'est un sujet qui est un petit peu vaste. Je pense qu'un point sur lequel, de notre côté, on a déjà travaillé un petit peu avec l'interprofession, c'est plutôt du côté des éditeurs et la distribution. Donc, je pense par exemple à ce qu'on a pu faire au Canada avec l'ANEL, où on a mis en place des formations pour les éditeurs, pour leur expliquer certains de ces aspects-là. Et ensuite, on s'appuie un peu sur l'interprofession pour continuer voilà, de transmettre ces savoirs-là. C'est clair qu'il va falloir créer des banques de ressources, des exemples. Voilà, je pense qu'on ne pourra pas passer que par aussi des formateurs et des formations de ce genre-là. Il faut qu'il y ait plus de ressources en ligne, des ressources vidéo, des textes. Et je pense que faut pas regarder que du côté de la France. Dans d'autres pays, il y a quand même des assez bons exemples. Je pense justement à Nel, c'est avec lequel on a travaillé au Canada, qui fait des enregistrements vidéo de comment leurs testeurs testent les apps mobiles, par exemple. Et ils montrent un petit peu ces fonctionnalités-là. Donc, il y a des choses à agréger, des choses à transmettre. Je pense que c'est quand même aussi le rôle des fournisseurs de solutions, au moins de communiquer sur les avancées qui sont faites. Mais ce n'est pas forcément aussi exhaustif que ce que pourrait proposer une formation complète. Donc, il y a un rôle à trouver, je ne sais pas pour quel acteur de l'interprofession, peut-être pour Réseau Carrel d'ailleurs, ou un autre. Mais il y a des ressources en ligne qui peuvent être déjà intéressantes à cet égard.
Oui, Nicolas Huard pour la Bibliothèque de la Manche. Justement, pour rebondir un peu sur la question des exemples d'autres pays, tout ce qu'on évoque là ce matin autour du PNB, du coup, on voit qu'on touche le frein sur le dispositif lui-même et qu'il y a peut-être ailleurs, ça peut fonctionner mieux. Enfin, des fois, il est question aussi que peut-être le PNB lui-même freine le prêt en bibliothèque de fait de la présence des éditeurs. Est-ce qu'il y a, parmi les exemples que vous connaissez en Espagne, au Canada ou ailleurs, qu'est-ce qui pourrait être importé chez nous pour que le PNB soit réellement plus ouvert, en fait?
Vaste sujet. En fait, ce qu'on voit, c'est que PNB est un petit peu unique à l'échelle mondiale. Dans les autres pays, en général, on est sur des dispositifs qui sont beaucoup plus portés soit par un ministère, soit par un acteur industriel. Donc, par exemple, en Espagne, ça a été un appel d'offres réalisé par le ministère de la Culture pour fournir un portail pour l'ensemble du réseau, une application pour l'ensemble du réseau et qui achète des livres à l'ensemble du réseau. Donc, les bibliothèques ont leur propre budget, mais elles ont un catalogue de départ, par exemple, qui est fourni par le ministère. Donc, c'est effectivement pas quelque chose, c'est pas le choix qui a été fait lors du lancement, qui était quoi, 2014 maintenant, du dispositif. Et ce qu'on observe effectivement, c'est que sur des pays, enfin, dans des pays où soit il y a un acteur, on va dire, industriel dominant, soit au contraire un pouvoir public qui porte le projet, ça gomme un petit peu, on va dire, la différence, ça lisse un petit peu les choses et ça peut aider dans ce genre de choses-là. Par contre, ça veut dire que dans ces autres pays, il n'y a pas forcément autant d'intégration avec les différents systèmes de SIGB, il n'y a pas forcément la même diversité des acquisitions. Quoique, au Québec, par exemple, tous les achats se font auprès de libraires locaux, mais il n'y a pas non plus pourtant cet éclatement des plateformes. Donc, c'est un choix qui a été fait, je pense, de vouloir respecter, garder tous les acteurs de la chaîne. Mais le fait d'avoir beaucoup de portails différents, beaucoup de prestataires différents à tous les niveaux, forcément, chaque avancée est plus compliquée. On l'a vu pour l'adoption de LCP, ce n'est pas encore adopté partout. Et à chaque innovation, chaque modification, bah, c'est plus long parce qu'il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Donc, de là à dire que c'est la direction que devrait prendre le dispositif ou le gouvernement français, je n'irai pas faire ce grand écart, mais je pense que c'est la principale différence et principal point qu'on a pu voir un peu ailleurs. C'est plus facile d'avancer groupé que séparé.
Voilà.
Grâce à nos collègues traducteurs et aux prestataires de Vélo Tipeee, on va vraiment respecter les horaires. Merci beaucoup. On reprend à 14h01 pour respecter la pause déj de nos collègues traducteurs. Merci beaucoup à eux et à Voxa Direct qui a un peu souffert du son au début. Bon appétit, à tout à l'heure.